Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes encore ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Nous sommes très heureux de recevoir Enora Malagré avec elle. On va parler de son livre Un cri du ventre, mais pas seulement, je peux vous le dire tout de suite, elle a sorti La Sulfateuse. Et puis dans les indispensables, on va s'intéresser à la grande figure du slam en France, Grand Corps Malade, puis direction le théâtre Édouard VII avec la pièce L'Heureux Stratagème avec Sylvie Testu et Eric Elmosnino. Pardon si j'écorche son nom. Hélène Manarino, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Je n'écorche pas votre nom, je vous salue. Et c'est le journal de la culture qui débute par la disparition d'une grande signature de la bande dessinée.
Et oui, Philippe Thaume, le co-créateur du Petit Spirou et Soda, est décédé à l'âge de 62 ans. Alors au début des années 80, il reprend la série Spirou et Fantasio aux côtés du dessinateur Jean-Ry. Puis ils imaginent ensemble les histoires du Petit Spirou. Philippe Thaume conçoit plusieurs personnages, Monsieur Mégot, l'abbé Langélus. Il s'est lancé ensuite dans la bande dessiné Soda en 1987. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises. Il a entre autres reçu 3 Alf Arts au Salon international de la bande dessinée d'Angoulême.
Ce qui est la plus grosse récompense dans la catégorie Un grand détective qui fait son retour chez Disney.
Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là, je suis là.
L'inspecteur Gadget, cet inspecteur un peu maladroit, rempli d'humour, va faire son grand retour puisque deux auteurs qui travaillent pour le Saturday Night Live, une émission aux États-Unis, travaillent actuellement sur un nouveau live action, c'est-à-dire un film avec des prises de vue réelles. Alors tout sera pris en charge par les producteurs d'Aladdin. Aucune date de tournage pour le moment. Alors c'est un nouveau remake pour Disney auquel on peut ajouter Maman, j'ai raté l'avion, 13 à la douzaine ou encore Une nuit au musée. La nuit au musée, pardon.
Il a cartonné hier soir sur TF1 oui. Dans le téléfilm avec Muriel Robin. Matt Pokora ne s'arrête plus.
Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau.
Sa tournée Pyramide Tour a commencé ce week-end à Strasbourg. Véritable show avec feux d'artifice, jeux de lumière. 44 dates l'attendent. Vous l'avez dit Philippe, hier soir il était sur TF1 aux côtés de Muriel Robin. Et puis ce n'est pas tout, son album Pyramide, certifié disque de platine, aura le droit à sa réédition. Deux versions seront proposées aux plus grands fans de Matt Pokora. 21 titres, donc 5 de plus que l'original. 2 CD, des photos, un DVD avec interview, 8 titres bonus, bref, la totale. Matt Pokora qui s'apprête également à être papa d'un petit garçon pour la première fois.
C'est très très fatigant. Un film sort demain en France et il bat déjà un record aux États-Unis.
Une toute petite requête.
Ouais.
Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker ?
Et oui, Joker. Joker qui a suscité une polémique aux États-Unis. Certains redoutaient que le film incite à la violence, mais l'ennemi de Batman, interprété par Joaquin Phoenix, a généré plus de 93 millions de dollars de recettes. Ce week-end, c'est le meilleur démarrage de l'histoire du box-office américain pour le mois d'octobre. Alors mondialement, nous sommes à 194 millions de dollars.
Ah,
c'est énorme.
Vous êtes dans la prod.
Ce serait pas mal.
Oui, bah, excusez-moi, j'ai eu une petite...
Et sur votre temps libre, vous venez avec nous à Europe.
Une petite part du gâteau.
Ouais, donc 194 millions de dollars.
Voilà, je ne vous l'ai pas dit Philippe. Bon, attention, certains spectateurs auraient tout de même quitté la salle avant la fin, trouvant le film trop violent. Des mécontentements sont apparus sur les réseaux sociaux. Alors, il sera interdit au moins de 12 ans en France et il sort demain dans les salles françaises.
Une chanteuse va dévoiler un premier ouvrage.
En attendant un nouvel album, Rihanna a dévoilé un autre projet, un livre d'illustrations sur sa vie et sa carrière. Il sortira le 24 octobre prochain. 504 pages, 1050 photos, tout son parcours est retracé. Oui, c'est énorme. Alors de son enfance à la Barbade, à ses tournées dans le monde entier, moments emblématiques, photos privées avec ses amis et sa famille, beaucoup d'images inédites. Le prix ? 140 euros.
Oh, dis donc,
eh oui,
hein, c'est pas rien quand même.
C'est pas rien, c'est un très très beau cadeau de Noël. Plus de 5 ans de fabrication, elle s'est entourée de nombreux photographes, artistes. Une véritable œuvre d'art pour la chanteuse, c'est comme ça qu'elle le qualifie.
Et nous sommes le 8 octobre et je note que c'est la première fois que j'entends le mot cadeau de Noël qu'on va réentendre pendant 2, 3 bons mois.
C'est faux, je vous en ai parlé dans le journal de la culture
oui,
avec
on
les cadeaux
joué.
De cette année.
Oui mais j'écoutais pas. Et puis on va terminer par une excellente nouvelle pour les fans de Céline Dion.
Et oui, annoncée la semaine dernière, la chanteuse donnera 4 concerts à Paris. On rappelle les dates, 26, 27, 30 juin et 1er juillet 2020 à Paris, la Défense Arena. Et face au succès des préventes, qu'a fait Céline Dion ? Eh bien, elle a ajouté 2 nouvelles dates, les 3 et 4 juillet, mise en vente demain à 10h et sans oublier son passage aussi aux Vieilles Charrues le 16 juillet prochain.
Et ce sera un concert Europe 1. Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure pour votre journal. Pour votre portrait inattendu.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et on accueille Enora Malagré, Philippe.
Bonjour Enora Malagré.
Bonjour Philippe,
bonjour à tous.
On vous a connu, je précise qu'on peut vous voir sur Europe1.fr avec le casque sur les oreilles tel Mickey. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un casque sur le crâne. On vous a connu comme chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Vous avez quitté l'émission il y a 3 ans pour passer chez Stéphane Bern. Vous êtes désormais aux côtés d'Éric Nolot dans De quoi je me mêle sur C8. Mais entre-temps, on vous a vu sur scène dans La Dame de chez Maxime et vous allez revenir au théâtre du Gymnase en novembre dans la pièce À vrai dire. Mais l'actualité immédiate, c'est un livre, ça s'appelle Un cri du ventre. C'est chez Le Duc Édition, pas du cœur mais du ventre. C'est quoi ce cri ? C'est celui d'une maladie.
Absolument, cette maladie s'appelle l'endométriose. J'avais eu le bonheur d'en parler un peu chez vous l'année dernière, je crois, Philippe.
Ouais. Racontez ce que c'est.
Alors,
c'est,
je vais essayer de schématiser, de caricaturer un peu de très simplement. Ce sont des kystes, on appelle ça des adhérences, qui se trouvent dans l'utérus. Malheureusement, il peut y en avoir ailleurs que dans l'utérus, par exemple dans la vessie, pour les pires cas, dans les poumons, parfois dans les jambes, dans l'anus, et qui causent des douleurs absolument indicibles et surtout, c'est la première cause d'infertilité chez les femmes.
Je veux dire, ce qui m'étonne vraiment, c'est que, vous l'avez dit, pour l'infertilité, c'est une maladie qui touche une femme sur 10, plus de 4 millions de Françaises. Pourquoi est-ce qu'on en parle quasiment jamais ? Je ne vais pas mentir, j'ai appris ce mot il y a 2 ans. Mmh. Comment ça se fait ? Alors, pourquoi il y a un déni ? Pourquoi il y a un tabou ?
Alors, heureusement, la parole se libère hein, grâce à mes compagnonnes d'infortune comme Laetitia Milo, Imani, etc. Mais effectivement, on n'en parle pas parce que tout ce qui touche au vagin, tout ce qui touche aux règles, le sang qui coule de notre vagin, je pense que ça dégoûte. Et puis, selon moi, une autre phrase que je dis en ce moment de temps en temps, c'est qu'aussi la douleur est souvent assez collée au mot femme. C'est-à-dire que ça semble assez normal qu'une femme ait mal pendant ses règles. Ça semble d'ailleurs assez normal qu'une femme souffre en silence.
Voilà. Ben on disait, tu enfanteras dans la douleur.
Voilà. Eh bien non, on n'est pas obligé d'enfanter dans la douleur, on n'est pas obligé d'avoir mal à se damner quand on a ses règles.
Alors, vous en avez souffert, c'est rien de le dire, Enora Malagré, dans le livre, vous n'épargnez aucun détail intime qui pourrait même rebuter vos amoureux potentiels. Pourquoi ce choix ? C'était pour créer un électrochoc, de tout raconter.
Oui, j'ai lu beaucoup d'ouvrages après mon espèce de outing sur l'endométriose, effectivement, lors d'un prime time à Touche pas mon poste, il y a presque 3 ans. J'en ai eu un peu marre de lire des bouquins où la parole était assez édulcorée, je trouvais un peu rose fluo. Cette maladie, elle n'est pas douce, elle est trash, on perd du sang, parfois on a la diarrhée. Il m'a semblé que c'était essentiel d'en parler de manière aussi crûment que la maladie l'était.
Alors vous en parlez même pas seulement dans le livre, vous racontez quand vous dînez, pardon de sourire, qu'un garçon qui pourrait vous plaire, vous lui balancez la description minutieuse de l'endométriose.
Lorsqu'il ne me plaît pas justement et que je veux m'en débarrasser.
D'accord, vous dites les caillots de sang, l'odeur, les serviettes hygiéniques qui dansent dans ma culotte, les diarrhées, les douleurs, réaction du mec.
Bah souvent il s'en va, puis s'il s'en va pas, on commence à faire des mimes. Et puis là, normalement, avec un peu de bol, il finit par partir en courant.
Vous racontez également vos nombreuses fausses couches. Je ne peux pas le lire ici, c'est un pavé, c'est un passage, c'est un moment de ce livre sur une page entière, le rituel de la fausse couche.
Ouais.
Vous en avez eu plusieurs.
Beaucoup. Beaucoup trop. J'en ai eu tellement, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps, que je songe à me faire utérer l'utérus pour aussi peut-être être en paix psychologiquement, parce que ça devient très compliqué.
C'est dans le livre.
Voilà. Tout ça dans le bouquin, c'est très douloureux, c'est encore pour moi d'en parler.
Non, j'allais dire ce qui est dans le livre, vous dites « ma mère me tanne pour que je me fasse retirer l'utérus », c'est-à-dire plus de douleur, mais plus de bébé possible.
Alors, plus de douleur, si, parce que malheureusement, je n'en ai pas que dans l'utérus, moi, de l'endométriose. Donc, en fait, ça n'enlèvera pas les douleurs. Évidemment, elles seront un peu réduites parce que la majeure partie de mes adhérents sont dans l'utérus. En revanche, la douleur sera toujours là. Par contre, effectivement, le fait de ne plus faire de fausses couches, peut-être que ça me libérera psychologiquement. Mais je ne suis pas sûre que ça soit la solution. Et je le répète, c'est très important de le dire. L'hystérectomie, donc se faire utérer l'utérus, n'est pas un remède à l'endométriose. Soyons clairs.
Comment vous faisiez pour faire de la télévision ?
Pas comme toutes les femmes qui ont des maladies.
Non, 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 non. Vous dites, j'ai mal 20 jours par mois, j'ai mal aux jambes, dans la vessie, au ventre, ça me fait comme des lames de couteau qui me rentrent dans les reins. Et on vous voyait, vous étiez pimpante, souriante. Comment vous avez tenu ?
Comme toutes les femmes qui ont de l'endométriose et qui vont au travail le matin, qui sont parfois à l'usine, qui font des métiers pénibles, plus que le mien. Moi, au moins, j'avais la chance de masquer ma douleur par des tonnes de maquillage. Certaines n'ont pas cette chance. Alors, je serrais les dents et puis je parlais un peu plus fort que les autres pour faire taire la douleur qui était dans mon ventre.
Ah, j'avais pas remarqué que vous parliez plus fort que les autres.
Mais parce que vous me connaissez bien, je parle déjà de fait, le volume sonore est assez élevé me concernant, donc vous imaginez quand j'ai mal.
Et Nora, Malagré, reste avec nous. Et alors, je sais pas ce qu'on peut apprendre sur vous, parce que tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est dingue. Mais vous savez quoi ? Il y a Hélène Manarino qui arrive.
Oui, avec son portrait inattendu, tout ce que vous ne nous dites pas, Nora Malagré, elle va nous le dévoiler. Et c'est juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Je l'avais promis, il arrive, Enora Malagré. Ouais, Hélène Manarino, c'est à vous, Hélène.
Bonjour, Enora Malagré.
Coucou, Hélène.
Quels sont...
Je vous aime beaucoup.
Quels sont vos secrets ? Quelles sont les choses qu'on ne sait pas encore sur vous ? Alors, Enora, vous êtes une vraie obstinée. Quand vous avez quelque chose en tête, il faut y aller, peu importe l'âge, le lieu, l'activité. Vous avez toujours fait comme vous vouliez, Enora, la femme libre. Une liberté qui vient de loin, depuis toute petite. Et cela a valu quelques convocations pour votre maman, parce que libre dans vos bêtises. À l'âge de 6 ans, en CP donc, vous avez décidé de faire le mur alors que vous étiez à l'école avec votre copine Jenny. Une envie soudaine de vous rendre, à la boulangerie.
Vous avez appelé ma mère ?
Je ne dis pas mais sûr, c'est le mystère.
C'est un truc de fou. Absolument personne n'est au courant de cette histoire.
Je peux vous dire quelque chose ?
Oui.
C'est ce que disent tous les gens qui sont ici à votre place en face d'Hélène.
Alors,
donc gardez-en pour la suite.
Je vous crains.
Gardez-en pour la suite.
Une envie soudaine de vous rendre à la boulangerie du coin pour acheter des bonbons, sauf que vous êtes allé avec des billets de Monopoly. Eh oui.
Oui, il est gris, ce qui ressemble au vrai.
Ouais. Il ressemble vraiment.
À l'âge de 13 ans, vous êtes scolarisé dans un collège privé, un collège tout rénové. Et à cette occasion, ce collège organise une petite inauguration.
Stop.
En invitant les parents
non,
et les élèves.
On continue.
Dans ce nouvel établissement, il y avait un sous-sol pour que les professeurs garent leur voiture. Et pendant l'événement, avec une de vos copines, vous avez décidé de défloquer le plafond de ce sous-sol. Cela vous est marré puisque les petits résidus qui tombaient, ça faisait comme de la neige.
Oui.
Bon, malheureusement, Enora, il y avait des vidéos de surveillance. Donc oui, votre maman, une nouvelle fois, convoquée. Alors Enora, on pouvait compter sur vous. Lorsque votre mère vous demandait de garder son chien calmement à la maison, vous acceptiez, mais sans le dire, vous partiez en rêve parti à Nantes.
Non,
mais attention,
attention
avec le chien,
non.
Vous l'avez quand même gardé.
Ah, mais oui, normal.
Alors des bêtises compensées par votre excellent niveau scolaire, eh bien oui, il faut le dire. À 6 ans, vous connaissiez par cœur les tirades de Cyrano de Bergerac. Okay. Alors Cyrano, bien connu pour son nez, mais vous, votre particularité, c'était les dents. Vous êtes né avec deux dents, comme Napoléon et Victor Hugo.
Oui.
Alors revenons à l'école que vous organisiez autour de la gym, de l'équitation, mais surtout de la danse, qui se traduisait par des chorégraphies sur l'une des chansons de votre idole absolue. Une Madonna qui se mélangeait à vos posters de Tom Cruise dès l'âge de 4 ans, qui lui se mélangeait à vos posters de poney. Votre goût pour les beaux étalons est arrivé assez vite.
Oh,
mais oui,
vous avez osé.
J'ai attendu, mais je l'ai quand même fait.
Ouais.
Libre dans vos imitations, celle de Monica Bellucci par exemple. Évidemment.
Oui, c'est vrai qu'avec mon mari Vincent Cassel, on fait toute la vie.
Mais non, mais j'ai là, je suis complètement tellement perturbée, tellement vous savez de choses.
Talent d'actrice, déjà donc logique d'être libre, d'annoncer à vos parents un soir à 22h30 que vous arrêtez vos études de droit pour vivre votre rêve, faire du théâtre avec une liberté de choix. Cours Florent, Cours Simon ou Rue Blanche. Libre de partir de vos vacances à Formentera, prendre le bateau pour rejoindre Ibiza, puis repartir à Formentera car finalement vous ne vouliez pas rentrer. C'est d'ailleurs à Formentera que vous étiez persuadé d'être suivi par des paparazzi lors d'une soirée. Un soir, vous voyez de la lumière dans les buissons de la maison dans laquelle vous étiez. Persuadé que c'était les photographes, vous avez décidé d'avancer d'un pas très énergique, en colère, pour vous rendre compte que c'était la police qui était là pour demander d'arrêter la musique. Oui, tapage nocturne.
Ça, je sais qui vous a répété ça.
Libre d'arriver chez des amis pour un apéro tranquille, en tout petit comité, en robe de soirée clinquante, car c'était le festival de Cannes. Et même si vous étiez à Paris, vous aviez aussi le droit à la montée des marches, mais de l'immeuble. Mais Enora...
J'ai fait ça.
Enora, surtout, la liberté, vous la prenez au volant. Vous êtes une véritable pilote au volant de votre smart. Vous slalomez fièrement en déclarant à vos proches « Regarde comment je fais.
Ah ouais.
Quand c'est pas la smart, c'est votre Vespa rose avec lequel vous grimpez parfois sur les tables. Libre de vous énerver, mais uniquement en langue arabe. Ouais. La vitesse, l'adrénaline, tout ça vous galvanise. Mais Enora, aka Mamita, comme on vous surnomme, a besoin de calme, de repos. Et pour cela, direction Formentera encore, où votre nom de Mamita est né, puisque un cale-tête en forme de transat que vous aviez sur la plage vous accompagnait tout le temps, un objet plutôt pour les grand-mères, donc d'où ce surnom Mamita.
Merci Justine Fraioli.
Mamita vous va plutôt bien, mais petite c'était Nono le petit robot, ce surnom qui fait toujours partie de vous, comme une partie de votre enfance. Femme-enfant, disent-ils, et ça commence par une chanson chantée par votre maman, et finalement encore maintenant.
Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant.
Cette chanson de Charles Trenet qui vous correspond bien, quand ce n'était pas ça, vous vous extasiez avec un petit livre qui racontait l'histoire d'une petite taupe qui faisait caca sur la tête des autres. Une taupe libre aussi finalement, c'est pour ça que vous l'aimiez. En tout cas, Enora, ce côté imaginaire de l'enfance, vous l'avez toujours entretenu. Et c'est pour ça que les enfants aujourd'hui vous adorent. Vous êtes la tata parfaite, celle qui se déguise en reine des neiges, celle qui défile pour faire rire les petits bouts qui vous entourent, celle qui enchaîne les bisous proutes sur le ventre. Bref, comme une ado aussi, votre activité préférée, les soirées pyjama chez vos amis, vous prenez la liberté de dormir chez les autres, attention, sans être une incruste. Mais cet esprit de communauté vous plaît, pas uniquement comme ça, vous adorez aussi voler des choses pour la communauté, attention, rien de grave lors d'une soirée, par exemple, une inauguration. Vous pouvez prendre discrètement une ou deux bouteilles de champagne, mais avant tout pour faire plaisir à vos amis. En revanche, il y a une liberté qu'il faut arrêter, c'est la liberté culinaire. Alors Enora, je suis désolée de vous le dire ce matin, mais vous êtes considérée comme la pire cuisinière du monde. Et oui, c'est dur. Les salades de crudité sans assaisonnement, des pâtes à la tomate immangeables, ouais. C'est non. Et pourtant, au restaurant, vous êtes libre de commander ce que vous voulez pour un même repas, foie gras, entrecôte frites, fromage, dessert, un appétit d'homme. Mais d'ailleurs, cette liberté que vous avez a toujours fait rêver les hommes. Votre premier petit ami vous a attendu des heures sous la pluie pendant que vous étiez en répétition de la chorale avec une rose rouge pour se faire pardonner après une dispute.
Et il est dans ce studio.
Alors,
Enora, il n'y a aucun doute, vous êtes multifacette, féminine, garçon manqué, sportive, artiste, femme enfant, douce mais aussi rebelle, sans filtre et timide. Nostalgique et totalement dans l'époque, une époque à laquelle vous pourriez très bien donner la devise suivante, liberté, égalité, malgré.
Enora,
je suis très émue.
Vous avez beaucoup ri, mais vous avez pleuré aussi.
Oui. Merci Hélène, vraiment.
Avec plaisir.
Ah non, mais alors déjà, c'est fou, parce que vous avez eu ma mère, ce qui n'arrive jamais, donc je ne sais pas comment. Alors je vais l'engueuler. Et il est bouleversant votre portrait. Je crois que c'est un des plus beaux portraits qu'on ait fait sur moi. Je vous dois à vie, vous aurez ma reconnaissance. Mmh. Merci beaucoup. Oui, c'était drôle et très émouvant.
Et à tous vos amis, je vous souhaite bon appétit.
Enora Malagré, l'invitée de Culture Média. Et dans un instant, on va parler dans nos indispensables du jour de théâtre et de musique sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et nous rejoignons dans ce studio pour nos indispensables du jour, Thierry Géfrotin pour parler théâtre et Angèle Châtelier pour la musique, toujours en présence de notre invité Philippe et Enora Malagré.
Un cri du ventre, c'est le livre que vous venez de publier aux éditions du Luc et Enora Malagré. Vous racontez votre maladie, vous racontez aussi beaucoup d'autres choses, on va en parler tout au long de cette émission jusqu'à 11h. Vous parlez de culture, vous parlez de musique, justement ça tombe très très bien. Vous parlez d'endométriose, une maladie dont on parle très très peu et qui touche pourtant une femme sur 10 en France, près de 4 millions de femmes touchées. Je précise qu'on va recevoir Imani, la chanteuse, le 30 octobre, qui justement parle de cette maladie. Ouais. Je voulais citer une association, EndoFrance, EndoFrance.org. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que j'ai appris un truc absolument terrible, c'est que cette maladie dramatique ne connaît actuellement aucun traitement.
Aucun. On attend, comme le Messie, la ménopause. Voilà. Alors après, il y a la ménopause chimique aussi, il y a quelques traitements, on peut se faire opérer, mais malheureusement, souvent, les kystes repoussent et on ne guérit pas avant la ménopause. EndoFrance est une association merveilleuse. Souvent, c'est compliqué d'en parler, de cette maladie, comme vous l'avez évoqué quelques minutes plus tôt. On ne sait pas quel traitement, effectivement, prendre, on ne sait pas quel gynéco aller voir. Si vous êtes vraiment dans l'incertitude et que vous avez besoin de réponses à vos questions,
allez voir Endo France, contactez-les, ils vous aideront. C'est une association formidable, tenue par des femmes fortes, généreuses et merveilleuses.
J'ai appris cette info par vous pour enchaîner sur le milieu médical et Nora Malagré. Même chez les médecins, cette maladie est très mal connue. Une étudiante en médecine vous racontait qu'en 7 ans d'études, elle n'avait eu qu'un seul cours à ce sujet, ce qui est quand même assez hallucinant. Tout à fait autre chose, je vous connais comme immense fan de musique. Vous écoutez quoi en ce moment ?
Comme d'habitude, plutôt du jazz, mais surtout du rap. Et une personne en particulier, un artiste qui s'appelle Némir, et qui a mon coup de cœur en ce moment.
Je l'ai entendu.
Vous l'avez écouté ?
C'est un jeune type qui chante en français.
Absolument.
Et parfois c'est orientaliste, et parfois pas du tout.
Merveilleux de métissage musical, à la fois un peu jazzy, évidemment hip-hop. Et son dernier tube s'appelle Sur ma vie, je vous le recommande. Il a du soleil dans la voix, ce gosse, il est à suivre.
Je fais ça encore seulement, j'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches, les mêmes qui empochent, y'a trop d'embûches, voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus, c'est comme...
Ça c'est Alpha One.
Mais
vous le saviez que j'allais bien...
Non,
mais qu'est-ce que c'est cette radio? Mais c'est quoi ça? Il y a des petites souffles.
Voilà une émission où c'est préparé. Dans le casque, on me dit, on a un extrait.
Ah c'est ça des professionnels.
Voilà.
Ah c'est ça de la bonne radio. Ah bah, je suis ravie.
Voilà. Angèle Châtelier, vous connaissez évidemment.
Bonjour, oui.
Mais avec
Bonjour.
Vous, on va aller au pays du slam avec l'un de ses représentants en France, sinon le plus grand, Grand Corps Malade, qui revient pour de nouvelles dates de concert.
Oui, vous imaginez l'état dans lequel on peut être une fois qu'on a fait plus de 600 concerts, qu'on est parti en tournée pendant des années, qu'on est allé à la rencontre de ceux qui nous écoutent, pour qui on a changé le cours des choses aussi parfois. Grand Corps Malade, lui, il tourne depuis presque 15 ans. Il continue cette semaine avec 3 dates à l'Olympia, pas encore complètes, jeudi, vendredi et samedi, à d'autres concerts dans toute la France.
Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style.
Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Verlan, robeux, argot, gros processus de création.
Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous.
L'artiste ne s'arrête jamais. Après Plan B, son 6e album studio sorti en 2018, il est revenu cette année avec Collection, 2 albums de ses meilleurs titres avec des inédits et des duos, dont celui-ci avec Francis Cabrel.
Oh, oh, c'est la traversée. Oh, oh,
je la vois s'éloigner.
C'est étonnant, ce duo, ça fait faire un petit hop à Enora Malagré.
Ouais,
et la question, après 15 ans de carrière, déjà 15 ans, est-ce que Grand Corps Malade se souvient de la toute première fois où il a fait de la scène?
Alors oui, on sait qu'il a commencé par le slam dans un petit café, et cette première scène, il s'en souvient très bien.
Dans un bar vers la place Clichy qui s'appelle Teranga, ça veut dire bienvenue en Sénégalais. J'avais découvert le slam un mois avant, j'avais envie de participer, donc j'ai écrit un texte spécialement pour l'occasion qui s'appelait Cassiopée. Et pour la première fois, j'ai mis en musique ce premier texte que j'ai fait un soir de 2003 dans ce bar.
T'as assuré Cassiopée, j'ai bien compris le message. Mais t'aurais pu me parler plus tôt, je te dis ça au passage. Alerté à temps, j'aurais pas perdu tous ces avantages. Et j'aurais fait plus attention, j'aurais su rester sage.
Alors comme les comédiens qui répètent et jouent inlassablement les mêmes scènes, les chanteurs et chanteuses chantent et rechantent de nombreuses fois leurs chansons, écument des centaines de scènes. Est-ce que Grand Corps Malade y trouve encore le même plaisir? On l'écoute.
Ouais, moi je me rappelle, c'est ce qui m'avait inquiété, c'était vraiment ma première tournée. Et je me suis dit, mais attends, mais là, on a fait 5, 6, 7 concerts, mais quand j'en serai à 60, 70, est-ce que je vais garder la fraîcheur, l'énergie de faire toujours les mêmes chansons? Et ouais, je me suis rendu compte que ouais, vraiment, je garde l'énergie. Alors évidemment, une tournée, elle dure très longtemps, mais du coup, c'est bien parce que ça permet aussi de la faire évoluer, cette tournée, d'amener des nouveaux textes qui n'étaient pas là au début de la tournée. Et en même temps, même si je fais exactement le même spectacle 2 soirs de suite, c'est jamais pareil, c'est assez inexplicable. La manière d'appréhender le public, de le sentir, la manière dont ça réagit. Je sais, moi, dans la scène, qu'il y a toujours des gens qui me voient pour la première fois. Et c'est surtout à eux, je pense.
Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir.
Grand Corps Malade sera donc à l'Olympia de jeudi à samedi. Retrouvez-le aussi à Alençon le 19 octobre, à Troyes le 24, Bruxelles le 25 et encore plein d'autres dates partout en France. Et puis il est au cinéma avec le film qu'il a réalisé, La vie scolaire, qui fait un carton, presque 500 000 entrées en une semaine.
Ah, c'est bien.
Et oui, La vie scolaire qui raconte l'histoire d'une jeune CPE qui se retrouve dans un établissement scolaire réputé difficile à Saint-Denis. Et forcément, c'est Grand Corps Malade qui en signe la BO. Son titre Je viens de là, qui était sorti initialement en 2008.
Enora Malagré, merci, merci beaucoup. Enora Malagré, vous le connaissez, Grand Corps Malade, vous êtes fan.
Très bien. Je suis fan, on se connaît un peu. Il est, en plus, il est très doux dans la vie. C'est quelqu'un de surintelligent et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense que c'est surtout le premier à avoir démocratisé le slam en France. Et rien que pour ça, moi, je dis chapeau et merci.
Voilà. Et son nom lui vient de, c'est parce que si je me souviens bien, la première fois il s'est monté sur une scène de slam, il fallait se trouver un surnom.
Un nom de scène,
et comme il arrivait avec une béquille et qu'il était grand, bim, on l'a trouvé comme ça.
Ouais, voilà. C'est fou. Hein. Quelle intelligence cet homme, vraiment. Ouais. Je suis ravie de voir que la route continue pour lui, avec toujours plus d'étoiles sur son chemin.
Voilà, petit corps énergique, grand cœur généreux, et Enora Malagré est avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avant dernière partie de Culture Média avec notre invitée Enora Malagré, Angèle Châtelier est toujours avec nous et on parle théâtre dans nos indispensables du jour avec Thierry Geffretin.
Alors on va marivauder avec vous Thierry, vous nous emmenez au Théâtre Édouard VII à Paris en compagnie d'Eric Elmosnino et Sylvie Testu. La pièce s'appelle L'Heureux Stratagème et c'est assez rare pour signaler. Notre invitée, en l'occurrence Enora, nous dit « Ah, cette pièce, justement, je suis allée voir il y a 15 jours. » Enora, je sais que ça va être très difficile, essayez de ne rien dire. On démarre par Geffretin, racontez, c'est quoi cette pièce, L'Heureux Stratagème ?
Alors, ce n'est pas la plus connue des pièces de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. On va l'appeler Marivaux, hein, comme tout le monde. Hein. Mais cet Heureux Stratagème, créé en 1733, a tous les ingrédients qui ont fait le succès d'un auteur qui joue beaucoup avec le libertinage et le badinage.
En deux mots, l'histoire de cet Heureux Stratagème.
Ah ben, c'est assez facile à résumer. Une comtesse se laisse séduire par un très beau gascon un peu sûr de lui, vous voyez, le beau mec là. Le coup de foudre partagé, le problème c'est que la comtesse a déjà un amoureux, à l'époque on disait un amant, hein, quand on était payé de retour, et que le beau gascon lui aussi a une amoureuse. Et les deux amants délaissés vont donc se rapprocher et monter un stratagème pour récupérer les infidèles. Je vous disais, la pièce a été créée en 1733, mais le metteur en scène a choisi de transposer tout ça dans les années folles, c'est-à-dire deux siècles plus tard quasiment.
Le metteur en scène actuel au Théâtre Édouard VII, pour quelle raison ? Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Ladislas Chola, le metteur en scène, vous répond, Philippe.
C'est une époque où les femmes ont commencé à affirmer leur liberté, les femmes d'une certaine élite, pas toutes les femmes. Du coup, dans ce monde de comtesse et de marquise, ça me semblait intéressant en tout cas de décaler ces choses qui se font souvent, c'est pas follement original. Mais je trouvais que dans cette époque, en tout cas, la langue d'un coup me parlait.
Ah, la langue de Marivaux, c'est pas du gâteau, vous allez me dire.
Écoute, ça va pas mieux. Hein.
Si, ça va très bien. Écoutez ce qu'en pense Sylvie Testu.
Parfois, on a peur de Marivaux parce que c'est en poulet. On n'est pas dans un truc où ça parle de façon grandiloquente. Marivaux disait que ses pièces étaient mal jouées quand elles étaient trop réfléchies. Dorante est en vérité plaisant. N'oserais-je, à cause qu'il m'aime, distraire un regard de mes yeux ? N'appartiendra-t-il qu'à lui de me trouver jeune et aimable ? Faut-il que j'ai 100 ans pour tous les autres ?
Faut-il que j'ai 100 ans pour tous les autres ? Même plaisir de la langue pour Eric Elmosnino, mais ça n'a pas été simple. Hein.
Pfiou, c'est difficile. C'est d'une complexité, d'une difficulté à apprendre. Ça paraît extrêmement compliqué et obscur, en fait, ça ne l'est pas. Il y a une clarté quand même, hein, à l'arrivée, on le voit bien. En fait, quand on envoie le texte, les gens le reçoivent de manière très... C'est pour ça que c'est un génie.
Le génie de Marivaux, et pas seulement grâce à sa langue, l'histoire aussi, il faut bien le dire. Hein.
Merci beaucoup Thierry. Donc L'Heureux Stratagème, c'est à l'affiche du Théâtre Édouard VII à Paris. Et Enora Malagré, vous l'avez vu il y a 2 semaines, alors c'est comment ?
Mais c'est extraordinaire. J'ai rarement vu une telle maîtrise de jeu. Le décor est époustouflant, la lumière est dingue, et vraiment le jeu des comédiens m'a vraiment saisie. Pourquoi ? Parce que cette langue, effectivement, qui n'est pas aisée, devient d'un coup complètement... c'est la nôtre. Moi qui suis parfois un petit peu con comme un balai, et ben là, j'ai tout bien compris. J'ai même pu raconter la pièce à ma mère. Ouais. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ouais. Donc vraiment, courez-y, on passe un moment divin. Et alors, spéciale mention pour Sylvie Testu, qui, je l'espère, aura un Molière. Bon sang, bonsoir.
Moi qui vous connais, je peux vous dire que vous êtes pas du tout con comme un balai, mais vous êtes totalement schizophrène. Je veux dire par là que pour qui...
Je vous remercie.
Vous allez comprendre ce que je veux dire.
Vous allez
comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire pour qui vous a vu seulement à la télé en blonde décolorée qui vocifère, il est impossible de se douter de votre bagage culturel. C'est quoi votre univers culturel ? Vous venez du théâtre, vous avez fait de la danse contemporaine avec Pina Bausch ou des gens comme ça.
Mais vous le savez, c'est
je
Nova.
Le sais. Oui, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas.
Il y a plein de gens qui ne le savent pas parce que.
Et là, on va vous retrouver. On va en parler tout à l'heure. Si c'est intéressant, parce qu'on va vous retrouver à l'affiche de théâtre. Et vous étiez dans quelle pièce, Thierry ? Il le sait.
Et dans La Dame de chez Maxime, vous jouiez la môme crevette.
Absolument. Mise en scène par Alain Saxe, qui n'est pas le dernier que la Terre ait porté.
Non, qui a été aussi pas mal primé, un peu moliérisé, le monsieur. Ça s'est très bien passé et je je viens du théâtre à la base. La télé, finalement, est un accident de parcours pour moi, accident heureux. Et là, effectivement, je reviens à mes premières amours. Nouvelle pièce à partir du 15 novembre au théâtre du Gymnase, une comédie contemporaine hilarante, une sorte de Père Noël est une ordure. En mieux écrit encore, allez, soyons un peu prétentieux.
Racontez pas tout, il fallait marquer une pause. Et Nora Malagré a oublié qu'elle a fait de la radio, mais enfin, elle sait faire des teasings. Plus long que l'émission, mais c'est quand même des bons teasings.
Elle reste avec nous, Nora Malagré, une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur europe1.fr. Rejoignez-nous également sur Twitter, @E1 Culture Média, tout accroché.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Dernière partie de Culture Média avec Angèle Châtelier, Thierry Geffrotin qui sont toujours avec nous et notre invitée Nora Malagré qui nous parle de son livre Un cri du ventre aux éditions Le Duc et de son actualité au théâtre notamment, Philippe.
Exactement, l'an passé vous aviez joué un Phédo mis en scène par Alain Saxe, c'était La Dame de chez Maxim's. Là vous revenez au théâtre, ça sera le 15 novembre avec une pièce au théâtre du Gymnase, ça s'appelle À vrai dire, c'est une pièce contemporaine signée Sylvain Méniac, Emmanuel Gélin qui est d'ailleurs sur scène. Là, on est plus dans le boulevard.
Oui, alors on est dans un boulevard, mais moderne, du moins. Le pitch est très simple. C'est une bande de potes qui vivent dans un monde où le mensonge n'existe pas. Donc, ils sont tous sans filtre. Ils se disent des vérités. Donc, du coup, ça donne un texte hilarant. Et puis, soudainement, après une petite beuverie, le personnage principal tombe par terre, se réveille et découvre ce qu'est le mensonge et commence à initier ses comparses, ses amis, au mensonge. Ça donne notre société actuelle.
Vous avez dit avant l'émission, plutôt avant cette partie, vous avez dit c'est mieux écrit que le Père Noël.
J'ai dit ça un peu pour vendre. Parce que je me suis dit, tiens, tu l'as un petit peu raconté, ma fille. Non, en tout cas, c'est d'une très très bonne facture. Je trouve, comme l'était effectivement Le Père Noël est une ordure, qui reste quand même un chef-d'œuvre absolu, bien sûr.
À vrai dire, une pièce sur le mensonge, et c'est drôle ce thème pour vous, parce que si on a lu votre livre, on apprend que vous avez beaucoup menti, et surtout que vous êtes beaucoup menti vous-même.
Oui, surtout à moi-même, effectivement.
C'est ce qui vous a intéressé, c'est pour ça que vous avez dit oui.
Oui. C'était un peu la fin de ma psychanalyse, au fond, cette pièce.
Ouais. Et vous avez quel rôle? C'est quoi votre rôle?
C'est le rôle de la seule justement qui ne comprend pas ce qu'est de mentir et qui ne fait pas partie un peu de cette gigantesque mascarade qui est un peu l'ingénue, je dirais, de la pièce. Ça change.
Un mot de télé, parce que c'est là où on vous a connu, Nora Malagré, vous étiez chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna l'an passé. Vous étiez le samedi après-midi chez Stéphane Bern dans son émission Bon baiser d'Europe qui s'est arrêtée.
Oui.
La faute aux gilets jaunes.
La faute aux audiences, effectivement, parce que l'actualité des gilets jaunes intéressait beaucoup plus les gens et je le comprends.
Voilà, exactement. Et désormais, vous êtes aux côtés d'Éric Nolot dans De quoi je me mêle sur C8. Je vous ai regardé, je vous ai vu, vous avez un rôle beaucoup plus mesuré que d'habitude. Vous faites moins de bruit qu'avant.
Alors, moins de bruit parce que je pense que la quarantaine m'a apaisée. Et puis parce que justement, il est temps d'être enfin un peu plus moi-même à l'antenne. Et puis là, on va parler culture et la culture ne m'agace pas. Au contraire, elle m'émeut.
Puisque vous dites être moi-même, c'est quoi votre vraie nature?
Vous la connaissez bien.
Non, pas du tout. Je veux dire ce que j'ai lu dans votre livre. C'est page 133, vous dites « La représentation hypersexualisée de la femme en télévision constitue pour moi une misogynie sournoise qui se distille dans votre poste de télé. J'y ai tant participé, je me suis volontiers plongé dans cette mascarade. Pour quelle raison, alors que vous n'aviez de cesse dans vos propos de dénoncer la misogynie ?»
Alors là, on n'aura pas assez de temps pour parler de ce cas qui est une névrose vraiment que j'ai entretenue. Mais grosso, plus mon corps était en train de s'affaisser avec la maladie, plus j'avais l'impression qu'il fallait que je me sexualise à l'antenne pour tenter de rester une femme. En tout cas, l'idée que je me faisais d'une femme est comme... Cette idée-là est un peu grossière. Mes vêtements et mon attitude pouvaient l'être parfois. Je ne sais pas si j'ai bien résumé.
Si, on a bien compris, mais vous en rendez compte?
Je m'en rendais compte, mais parfois on peut être hyper lucide, mais ne pas arrêter le processus. Et puis de toute façon, nous sommes des produits à la télé. Je suis un produit, je dois être vendu, je dois vendre ma personne. Et on m'a un peu asséné que lorsqu'on est une femme, il faut vendre un objet un peu érotisé. Alors j'ai volontiers participé à ça. Non pas que ça me dérangeait, parce que je suis aussi une femme libre et libérée, mais je pense que parfois j'en est un peu trop fait. Et puis la quarantaine venant, on se dit qu'il est temps pour nous de nous couvrir un peu. Enfin, pas tout.
Vous avez lancé il y a 2 ans une appli féministe, s'appelle WTS.
Absolument.
C'est pas What the Fuck, mais Woman Trend Family.
Absolument.
Elle existe toujours?
Oui, on est en train de la remasteriser.
Je veux dire pourquoi je vous en parle. Parce que vous dites dans le livre, mon féminisme est né de ce projet.
Oui.
Vous l'étiez pas avant?
Je l'étais, mais...
Je pensais que vous l'étiez, moi.
Mais alors, je pense que je l'étais, mais sans m'en rendre compte.
Ah, d'accord.
Je pense qu'il était là, un peu latent. Ma mère l'est, ma grand-mère l'était. Je suis une femme forte, mes copines le sont. En revanche, grâce à cette application, nous avons rencontré des femmes femmes dont la parole était vraiment plus libérée et plus féministe. Le verbe était un peu plus haut.
Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve sur l'appli ? Qui vous avez fait parler ?
Une femme qui venait du Yémen et qui nous a raconté son parcours. Des femmes excisées aussi qui nous racontaient l'horreur. Des femmes voilées aussi qui nous parlaient de féminisme, comme quoi le voile et le féminisme parfois peuvent
cohabiter.
Enfin, c'est ce qu'elle nous racontait, en tout cas, cette jeune
d'accord,
femme.
D'accord, parce que là, c'est un peu dur à admettre quand même. Ça, c'est On va recevoir du courrier.
C'est ce qu'elle nous racontait. Donc, en tout cas, nous, on était là pour écouter cette théorie-là. En tout cas, plein de parcours de femmes différentes et qui étaient militantes. Et je crois que ça a révélé, en tout cas, une autre forme de féminisme, avec des mots peut-être un peu plus choisis cette fois-ci.
Là, il y a des mots choisis et pas choisis parfois. Des fois, ça bastonne vraiment. Ça s'appelle « Un cri du ventre ». Enora Malagré qui signe ce livre aux éditions Le Duc. Et je rappelle que vous serez au Théâtre du Gymnase à partir du 15 novembre pour la pièce « À vrai dire ». Merci d'avoir
merci
été là.
Philippe.
Merci Thierry, merci Angèle. Merci Céline Dacosta. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Cyril Ferraud pour la partie Média et Christophe Honoré, le metteur en scène, et Camille Cotin, la comédienne, pour la partie Culture. Oh. À demain.
À demain, Philippe Vandel. Dans un instant, Anne Roumanoff arrive sur Europe 1 avec sa bande et ses invités. Aujourd'hui, Valérie Benaïm, Pascal Fioretto et Sophie Domenton.